Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.0, les bonnes ondes, dans l'émission de Paul Turchet et Bruno Point, musique au pluriel. Au pluriel n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Nous sommes aujourd'hui, nous rompons avec nos habitudes de présentation d'un artiste, d'un musicien, en étant présent sur Ambronay lors du festival qui a lieu en ce moment et qui, je dirais malheureusement, c'est peut-être le seul regret que j'ai par rapport à cette émission, se termine aujourd'hui. Ce deuxième week-end d'octobre. Donc nous veillerons peut-être l'année prochaine à faire mieux et à aller, j'en ai parlé avec les gens du festival, à aller avant le festival pour le présenter et que les auditeurs de Radio B soient informés et intéressés par les musiciens qui s'y produisent. Aujourd'hui, nous allons écouter deux interviews que j'ai faites de deux musiciennes que j'ai vues en concert. La première est une Bolivienne, Mariana Delgadillo Espinoza, qui anime un ensemble Alchimia qu'elle a créé. Alchimia, ça veut dire alchimie, elle nous le dira. Il s'agit de musique baroque sud-américaine, bolivienne. Le second interview, je le présenterai après, est tout à fait tranché, puisqu'il s'agit d'une musicienne, je dirais, contemporaine au sens de sa création, qui écrit ses musiques et ses textes, et qui s'appelle Maya Kamati, le créole urban pop. Tout d'abord, un premier morceau de l'ensemble Alchimia, puis l'interview. Et nous clôturerons la séquence sur l'ensemble Alchimia par une deuxième musique pour ensuite introduire la seconde artiste.
Thank you.
Mariana Delgadillo Espinoza, merci. Merci de venir dans notre émission Musique au pluriel, qui peut-être n'a jamais aussi bien porté son nom. Vous allez nous parler de votre ensemble, Ensemble Alchimia, de la musique que nous venons d'entendre en Bronnet, Sucrerie, une musique teintée d'espagnol, mais qui est issue des célébrations religieuses et festives en Bolivie. Donc, tout d'abord, Mariana Delgadillo Espinoza, pouvez-vous nous parler de vous, de votre itinéraire? J'ai cru comprendre que vous étiez basée à Lyon, d'ailleurs je l'ai lu. Peut-être pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cette ville de Lyon dans laquelle vous avez fait vos études, si j'ai bien compris.
Avec grand plaisir. Tout d'abord, vous remercier pour cette invitation, parce que pour moi, partager cette musique, c'est un peu une histoire personnelle d'abord, et puis ensuite un travail que je mène avec un groupe formidable d'artistes que j'ai rencontré à Lyon pendant mes études. Donc en effet, mon parcours vient depuis la Bolivie, puisque je suis d'origine bolivienne. Je suis née en Bolivie et j'ai commencé là-bas avec la danse. Donc j'ai un parcours des danseuses des danses traditionnelles, où je me suis imprégnée depuis mon plus jeune âge aux traditions des danses qui étaient des danses pour les festivités religieuses. En Bolivie, on danse encore pour les fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte, et surtout les fêtes des saints dans les villages. Donc personnellement, par exemple, j'ai dansé pendant des années à la fête de Saint-Jacques dans le village de mon père, et où on interprétait les danses jusqu'au parvis de l'église, et puis on rentrait faire la messe dans une célébration accompagnée de musique et danse. Donc quand je suis arrivée en France pour faire mes études, j'ai trouvé un lien presque immédiat avec les musiques baroques, et notamment les musiques d'origine espagnole, comme vous avez dit. Le lien que j'ai trouvé, moi, dans cet esprit festif et tout ça, j'ai pu le partager avec des musiciens que j'ai rencontrés au CNSM de Lyon quand j'ai fait mes études. Nous avons commencé à discuter, à faire des tests, à mettre des choses ensemble, en miroir. Et grâce à cette rencontre, je me suis lancée dans un travail de recherche aux Archives nationales de Bolivie. Donc je suis allée, ces archives sont basées dans la ville de Sucre, qui au XVIIe siècle était la capitale de la vice-royauté espagnole du Haut-Pérou. Donc c'était une capitale très riche, où la cathédrale avait un maître des chapelles, des chantres, des choristes, des instrumentistes qu'il formait, et pour qui il composait des musiques pour les célébrations. Toutes ces musiques se retrouvent maintenant dans un immense codex aux Archives nationales de Bolivie. J'ai eu accès, j'ai pu transcrire certaines, et j'ai pu récupérer d'autres transcriptions qui avaient déjà été faites par des collègues boliviens. Et je les ai choisies parce que, pour moi, représentaient un tout petit peu un parcours dans le temps d'un calendrier liturgique. Donc on fait un tour, on passe par Noël, Pâques, Corpus Christi, et puis on revient à Noël à nouveau, parce que c'est quand même la fête la plus importante.
Je saisis au bon ce que vous avez dit par rapport aux maîtres de chapelle, aux compositeurs qui ont généré ces musiques. Pour le néophyte que je suis et que sont très probablement nos auditeurs, ces personnes étaient des Boliviens, issus d'Espagnols, des résidents, des compositeurs. Autrement dit, qui étaient ces maîtres de chapelle pour faire le lien aussi avec l'Espagne?
Alors, tout d'abord, c'était des Espagnols. Puis, c'était des métis qui ont été formés par les Espagnols. Il faut savoir qu'en Bolivie, comme dans d'autres pays d'Amérique du Sud, les missions jésuites et franciscaines ont apporté énormément au niveau de l'éducation et de la culture des populations métisses et indigènes. Donc, c'était des musiciens qui se sont transmis de génération en génération ce savoir-faire. Et puis, on a des anonymes, des pièces anonymes, donc qu'on assume, qui étaient des compositeurs plutôt indigènes, qui n'avaient pas encore été baptisés, donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas le droit de signer, ou alors des élèves, ou alors tout simplement des partitions un peu d'études dont on n'a jamais retrouvé les traces des compositeurs. On a aussi des quelques compositions qui étaient, par exemple, signées par des compositeurs espagnols, mais quand on les compare aux sources espagnoles, on ne reconnaît pas tout à fait la musique. Donc on peut aussi imaginer que c'était des pièces écrites dans le style de quelqu'un, un peu pour imiter. Mais en effet, c'était des gens qui travaillaient à la cathédrale, qui étaient formés et dont le métier était soit d'être chanteur, puis instrumentiste, puis compositeur. Donc il y a eu un brassage en fait des populations et des classes sociales et de gens qui s'y sont formés là-bas pour aller à travailler ensuite dans les rues.
Vous, auditeurs, vous entendez de temps en temps un instrument, c'est parce que nous sommes dans les murs d'Ambronay, où il y a des résidents et où au moment du festival, en particulier, les instrumentistes répètent. Donc on entend des instruments, on est vraiment dans l'ambiance du festival. Je reviens sur, maintenant que nous avons un peu compris ce métissage, ce mélange entre l'origine espagnole, les Boliviens, et donc l'importance de la musique, une question qui vient, c'est l'importance du religieux en Bolivie à cette époque, et qu'en est-il aujourd'hui ?
Eh bien, je dirais que aujourd'hui, c'est encore plus important même. C'est-à-dire que ces coutumes de jouer les célébrations, les danser jusqu'au parvis de l'église, faire des représentations scéniques et musicales sur la naissance de l'enfant Jésus ou le parcours de Pâques, par exemple, sont des pratiques qui sont encore vivantes aujourd'hui. Et il est très, très, très commun que, par exemple, on se promène dans la ville de La Paz ou dans la ville de Sucre et tout d'un coup, le trafic soit interrompu parce qu'il y a une procession des danseurs qui va jusqu'à l'église. Donc, c'est vraiment, très, vraiment d'actualité.
Voilà. Donc, le religieux et cet aspect musical et festif font partie de la vie, comme ils le faisaient à l'époque, ce que nous avons ressenti pendant votre concert.
Complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye vraiment de transmettre. Parce qu'on parle de faits religieux, on parle des textes... alors, ce sont pas des textes de la Bible, ce sont des textes paraliturgiques. Donc, ils ont été composés pour transmettre une idée un tout petit peu à l'image de je sais pas, des cantates, par exemple, qui ne viennent pas des textes religieux directs, mais les compositeurs écrivent pour les messes.
Et qu'en est-il aujourd'hui en Bolivie ? Y a-t-il des compositeurs qui continue à produire un peu dans cet esprit?
Alors, il y a, comme partout, il y a une mouvance contemporaine. Donc, je dirais que ce qui persiste le plus en Bolivie, c'est l'esprit de la danse. Plus que l'esprit de la foi, c'est vraiment la danse qui a servi plus à transmettre... Les manières de faire d'antan.
Je dois dire que votre propos sur la danse et puis le fait que vous nous ayez dit que vous avez commencé par la danse se ressent tout à fait dans votre direction d'orchestre parce que et à la fois dans ce que vous imprimez à l'orchestre et à la fois dans la gestuelle, on voit que la notion de rythme, d'allant et de mouvement est extrêmement importante dans votre direction.
Alors, c'est peut-être un peu inconscient, pour le coup. mais c'est sûr que pour moi, même les pièces qui sont lentes dans le programme instaurent un mouvement naturel qui permet à l'auditeur de suivre le parcours musical aussi par une sensation physique. Une corporalité qui raconte aussi une dramaturgie, une histoire qui devient intense, qui se détend, etc. Donc ça fait partie pour moi des sensations qu'on peut très facilement transmettre déjà entre nous et avec le public.
Je pense que pour nos auditeurs, Nous sommes là à Ambronay, vous entendez un instrument derrière nous. Je pense que ce type de musique, il est fondamental de venir la voir. Je ne sais pas si on peut voir la musique, mais en tout cas, il est très important de vivre le moment et de voir la succession des pièces, de voir la chef qui dirige, de voir les musiciens. Et on rentre un peu comme, j'imagine, à l'époque, dans les célébrations religieuses ou les célébrations festives. On prend un rythme, on prend une cadence et on rentre dans la danse, quelque part.
Oui, exactement. C'est peut-être aussi pour ça que le sous-titre du programme, c'est « Isabel la Segunda », qui veut dire « C'est parti pour un tour ». Parce que... souvent, quand on répète, il y a cette notion de rituel, de choses qui se répètent, qui seraient faites pour rentrer un peu plus dans la danse, comme vous le dites.
Étant sur Lyon, j'imagine que vous vous produisez. J'ai compris que vous aviez maintenant un statut qui dépasse tout à fait la région et qui dépasse la France et que vous êtes demandé dans le monde. Mais j'imagine que vous vous produisez sur Lyon et peut-être avec d'autres ensembles et d'autres structures.
Oui, complètement. Nous faisons partie de la FEVIS, qui est une fédération d'ensembles spécialisés à niveau national et aussi au niveau régional. Donc nous collaborons avec le Centre d'art vocal Spirito, par exemple, pour la création d'un prochain spectacle le 22 octobre au Théâtre de la Renaissance. Nous collaborons aussi avec des structures pour notamment mener des actions de médiation culturelle, d'éducation aussi, parce que dans l'ensemble, on tient à cœur à pérenniser le lien avec le public, mais aussi avec des gens avec qui on peut travailler pour un certain temps sur un projet musical, sur une idée artistique, pour consolider les liens.
Donc, nous mettrons en parallèle de cette émission sur notre site en podcast des références pour pouvoir vous retrouver sur la place de Lyon, peut-être des liens, j'imagine que vous avez tout ça, vous nous les communiquerez, de telle sorte que tous ceux qui sont intéressés par les musiques et par la musique au pluriel puissent regarder vos productions, vos projets et baigner dans cette danse et l'accompagner. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment de cette présentation. Juste un dernier mot, j'ai lu aussi que vous vous intéressiez et que vous produisiez des œuvres contemporaines.
Complètement. C'est dans l'ADN de l'ensemble Alchimia.
Que veut dire Alchimia ?
Alchimie.
Alchimie, très bien.
Et justement, alchimie, pour nous, ça vient d'aller à la recherche de l'essence des musiques qui sont en lien, qui s'élient. Donc là, dans le cas du programme Sucrerie, c'est les liens justement entre la danse, des musiques du XVIIe et XVIIIe siècle et des musiques qui ont été écrites par des compositeurs encore vivants en Bolivie qui perpétuent cette notion de la danse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez entendu, par exemple, une composition de la poétesse Mathilde Casasola, qui est une compositrice de la ville de Sucre, qui est toujours vivante et qui écrit vraiment dans la veine de ces musiques à danser. Mais par ailleurs, nous travaillons aussi avec des compositeurs, des jeunes compositeurs qui font des choses plus expérimentales, avec notamment les instruments anciens et les voix. Donc, dans notre ensemble, on travaillera toujours avec des chanteurs instruments anciens et aussi électroniques, donc avec distorsion des sons, traitement du son en temps réel, en allant chercher les liens avec des musiques même plus anciennes, comme des musiques de la Renaissance ou même du Moyen-Âge.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour cet entretien qui nous a permis de découvrir un monde que nous ne connaissions pas, enfin en tout cas quant à moi, et puis qui a été passionnant pour effectivement comprendre ce lien qui est le vôtre entre la musique et la danse, et qui, si j'ai bien compris, est essentiel en Bolivie. Merci encore, Mariana, et au plaisir de vous réécouter.
Mais merci à vous encore. J'espère que ces mots vous auront donné envie de découvrir notre univers. En tout cas, nous avons été ravis de partager ce moment ici avec le public d'Ambronay. Ça a été un moment magique. Et on espère retrouver vos auditeurs aussi dans un prochain concert.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au plaisir. Après le baroque bolivien, nous allons maintenant nous intéresser à Maya Kamati. Maya Kamati, chanteuse actuelle, je dirais. Elle se produit partout dans le monde et notamment dans les festivals français de chansons contemporaines. Son ensemble s'appelle le Créole Urban Pop. Elle nous expliquera ce qu'elle entend dire par ce titre. En tout cas, je l'ai vue sur scène, c'est une chanteuse formidable qui a une très belle voix et qui est d'une grande énergie. Elle danse beaucoup, elle tient à la danse d'ailleurs, qui est synonyme de son pays, la Réunion. Je vous propose de procéder comme pour la précédente artiste avec une première chanson. Là, pour le coup, ce sont réellement des chansons. Chanté par Maya Kamati, puis l'interview, puis nous terminerons par une deuxième chanson de Maya Kamati.
Caillon, en Guinée, histoire.
Donc, Maya Kamati, que je viens d'entendre à Ambronay, au festival. Maya Kamati a la gentillesse de recevoir Radio B. Et nous allons la faire parler de son art, de son métier de chanteuse, de ses convictions. Donc, Maya Kamati, vous êtes réunionnaise.
Oui.
Votre groupe, je vais vous laisser dire le nom pour ne pas l'abîmer, mais c'était Créole Urbaine.
Pop, c'est de la pop urbaine, voilà,
urbaine,
en créole.
Vous me direz ce que ça veut dire, j'ai bien une idée, mais autant que vous l'exprimiez, vous. Donc on peut peut-être commencer par ça. Déjà, le nom de votre groupe.
Alors, le nom, ça porte mon nom, en fait, sur les conseils de mon père, qui, lui, a un nom de groupe, c'est-à-dire un collectif, un mouvement, qui s'appelle le Ziskakan. Mon père m'a conseillé, après des années de pratique et d'expérience, de porter mon nom, du coup, finalement, un peu le sien aussi, un peu plus loin, un peu plus haut, et pour pouvoir faire ses propres choix et filer, continuer comme ça dans la musique pour commencer, puisque en fait il y a une question de, quand on est fille d'eux, il y a une question de relève en fait que les gens vous imposent au final, et je me rends compte que dans ma musique et dans ce que je fais aujourd'hui, ce sont des questionnements toujours qui ont été soulevés par des réflexions ou des rencontres ou des, enfin voilà, c'est des choses à un moment qui se passent dans une vie et qui font que en fait je me suis posé ces questions là déjà le genre, en fait, être une femme dans la musique, être une femme racisée dans la musique, être fille d'eux, et en fait tout ça, ce sont des questions en fait que les autres m'ont renvoyées à travers, enfin voilà, ça fait 36 ans maintenant.
Voilà, et alors donc, le nom de votre groupe,
oui,
c'est donc votre
Maya
nom.
Kamati.
Voilà. Créole.
Créole, urban pop, je dis ça, voilà, c'est de la pop urbaine. On définit ça, c'est pareil, c'est une étiquette de grands genres dans lesquels il faut cocher des petites cases, on va dire.
Alors, urbaine, est-ce que vous pouvez me préciser ce que
urbaine, parce que urbaine, dans le sens, en fait, ce que vous avez vu, en tout cas aujourd'hui, c'est un mélange de mon précédent album Pandillé avec ce qui arrive donc maintenant dans ma création, avec des sons actuels, mais aussi, on va dire, peut-être un peu plus de débit dans les paroles. Donc qui va peut-être même se rapprocher du rap en fait, et donc on va utiliser beaucoup de sons actuels, la guitare électrique jouée aujourd'hui par Arthur Lings, la batterie avec, lui on l'appelle, son petit nom c'est le Poulpe, parce qu'on a l'impression qu'il a 8 bras, et que voilà, il s'appelle Julien Tékéyan, excellent batteur, et en fait si vous voulez, avec ces musiciens-là et avec le réalisateur, l'arrangeur des nouveaux morceaux, on est vraiment parti dans des sonorités plus actuelles et plus, même plus produites, en fait. Ce que je voulais, c'est continuer à écrire en créole aussi, sans trop réfléchir, en fait, puisque c'est ce qui me vient, c'est naturellement. C'est l'écriture en créole. Et je voulais effectivement garder l'originalité, entre guillemets, des instruments traditionnels de chez moi. Donc, et de voir jusqu'où on peut aller dans ce mélange-là. C'est ça qui m'intéresse.
Alors, ce que j'ai vu, au-delà de ce que vous venez de dire, qui était effectivement visible et audible, c'est aussi que vous étiez danseuse. En tout cas, vous vous exprimez en dansant oui, en même temps que vous chantez.
Oui, oui.
Donc ça, c'est naturel aussi.
C'est naturel aussi, c'est amené aussi par l'instrument auquel je joue, qui s'appelle le kayamb, en fait, qui est un instrument traditionnel de La Réunion, qui est en fait une sorte de planche avec des tiges de fleurs de canne et des graines de conflore à l'intérieur. C'est comme un grand shaker. Et en fait, cet instrument, moi, je trouve personnellement que si on ne danse pas avec, il ne sonne pas pareil. Donc, en fait, il m'accompagne et je l'accompagne aussi. C'est mon compagnon de toutes mes compositions récentes. Il me donne une liberté
de tant dans la métrique de mes morceaux, par exemple, je ne compte pas le nombre de mesures, il me donne une liberté mélodique parce qu'il lui-même n'a pas d'harmonie, donc il me permet de faire du binaire comme du ternaire, et donc c'est vraiment un compagnon de route, voilà, ce Kayam, et voilà, je trouve que c'est lui rendre hommage en fait que de lui aussi l'accompagner et de danser avec lui, et du coup oui, bien sûr, c'est devenu naturel.
Bien. Et ce que j'ai vu et surtout entendu aussi, c'est votre bis, mm-hmm. où vous avez chanté a cappella.
Oui.
Et où là, peut-être que ce que je vais dire est faux, mais après tout, on exprime ce qu'on ressent.
Oui.
Vous avez presque changé de style. On est tombé dans quelque chose de très mélodique, de mm-hmm. très mélodieux. Et si on ne le savait pas, ce qu'il faut, on voit que vous chantez vraiment très très bien. C'était très beau.
Merci.
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce bis ?
Bah, sur ce bis, c'est un morceau que je ne chante pas beaucoup. Je l'ai beaucoup chanté avec mon précédent album. J'essaye de créer... Moi, en fait, ce qui m'intéresse dans ma création, depuis 2012 que je suis professionnelle, c'est toujours... de sortir de ma zone de confort. Si vous écoutez mes deux précédents albums, déjà le deuxième ne ressemble pas au premier. Le premier était très folk, acoustique. Mais d'ailleurs, je joue toujours quelques morceaux de ce premier album, réarrangés aujourd'hui. Mais... le deuxième, j'allais beaucoup plus faire déjà de la musique actuelle, de la musique électronique, moi qui me plaît, qui me parle beaucoup, et puis aussi de ce que je vois des gens de ma génération. Mmh. Donc, où est-ce qu'on peut aller amener notre traditionnalité et notre culture. Donc, c'est ça qui m'intéresse toujours. Donc, aujourd'hui, la pop urbaine, elle me semble évidente pour tenter d'accrocher d'autres oreilles et les miennes en premier. Voilà.
Non, mais ce que vous dites, c'est très important parce que on voit, j'allais dire tristement, que les salles de concert classiques mm-hmm. vieillissent. Mm-hmm. Donc j'en fais partie. La moyenne d'âge est de 60-65 ans. Et si on va jusqu'à la musique de chambre, on est pratiquement à 70 ans. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui est inquiétant, parce que ce qui est important, c'est quand même que les salles de concert soient pleines.
Bien sûr.
Donc il faut penser à la relève.
Bien sûr.
Et donc sans pour autant chercher à capter le public, il faut quand même aller vers les arts que le public jeune attend.
Oui, ou à mon sens en tout cas, si je peux me permettre, si je peux me permettre, je trouve, je suis passée par la case conservatoire quand j'étais plus jeune, je faisais de l'alto, et j'ai pas trouvé ma place. Je n'ai pas trouvé de liberté, justement. Je parlais de liberté par rapport à la mélodie, à la métrique, et j'ai eu la chance il y a quelques années. Avant le Covid, de faire un concert. J'avais une carte blanche avec le conservatoire de La Réunion, l'orchestre régional, donc orchestre symphonique, autour de mes compositions. Et on a eu la chance d'avoir ce mélange actuel, classique, symphonique. Je me suis dit, mince! Normalement, quand on fait des concerts symphoniques comme ça, c'est qu'on notre carrière est terminée, c'est la fin de la carrière. Et j'ai eu peur. Et en fait, cette rencontre, elle a été très intéressante pour moi, parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait le même métier, mais pas de la même façon. On ne lit pas la musique pareil. Et je n'ai pas ressenti, si vous pouvez me permettre, un certain élitisme. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai senti de l'écoute, et je crois que c'était la première fois qu'il y avait, en tout cas que moi j'ai ressenti une vraie connexion avec moi. Je ne sais pas lire une partition, par exemple. Et quand mes musiciens me disent « Oui, mais Maya, là, tu ne fais pas une mesure, tu ne fais pas quatre mesures », je dis « Oui, ok, est-ce que ça sonne ?» Dans tes oreilles, est-ce que ça sonne ? Est-ce que si je reprends mon chant à tel endroit, à tel moment, est-ce que ça te dérange ? Ou est-ce que il me dit, ben en fait, oui, ça, il faut que je m'adapte. Mais du coup, C'est ça qui est beau dans la musique, c'est cette liberté que parfois je n'ai pas retrouvée. Pour moi, il ne s'agit pas d'aller captiver le public plus jeune, mais de l'intéresser à s'ouvrir à ce monde-là. Et je trouve, moi, que c'est à mon sens, un peu renfermé, mm-hmm. Vous voyez ?
Et alors, comment est-ce que vous intégrez, si tant est que vous en ayez conscience, mais vous semblez bien réfléchir à ce que vous faites, même s'il y a beaucoup de naturel et que vous aimez sortir de vos sentiers battus et vous renouveler, comment vous mélangez la musique traditionnelle avec ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire une musique de nos jours ?
Souvent, je vais commencer par des mélodies. Comme je disais, moi, je compose beaucoup avec le kayam. Donc, comme cet instrument m'apporte cette liberté-là, on va dire que ma mélodie est à peu près créée. Et ensuite, selon les personnes avec qui j'ai envie de travailler, les influences, j'arrive souvent avec des morceaux références que j'écoute, que je vois aussi, qui moi me parle tant dans la mélodie, je suis très attentive à la mélodie des morceaux, à la résonance des mots, et le créole aussi m'apporte beaucoup ça, c'est-à-dire que c'est une langue très très imagée qui va me permettre de jouer avec des sonorités, avec des mots, et du coup voilà, en termes pratiques, on va confronter des esthétiques. Quand je vais voir qu'il y a possibilité de placer, je ne sais pas, un rouleur, par exemple, qui est l'autre instrument traditionnel de la Réunion. Moi, j'ai beaucoup utilisé, par exemple, les tambours malbar, qui sont des tambours rituels de la religion tamoule, de la religion indienne. Ce sont normalement des instruments qui sont sacrés, qui ne sont pas utilisés dans la musique actuelle, justement. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais mon père faisait déjà ce travail-là avant, d'intégrer les tablas, les instruments sacrés dans la musique actuelle. Lui, il fait du rock. Il ne fait pas du baroque, il fait du rock. Mmh. Et mon père, voilà, c'est un rocker qui a eu envie, en fait, d'amener toutes ces sonorités-là dans la musique actuelle pour montrer qu'il y a des choses intéressantes dans toute culture aussi, mmh. Je crois. Et que tout est mélange, en fait. Et finalement, cette appellation où on nous case de world music, pourquoi on définit ma musique comme de la world music ? Est-ce que c'est uniquement parce que je chante en créole, donc je ne chante pas des langues dominantes, on va dire, dans des langues dominantes, l'anglais ou le français, on m'a dit, pour que ça marche, il faut que tu chantes anglais. Je dis, moi, ça ne me dérange pas de chanter anglais, ça ne me dérange pas de chanter français, mais ça ne me dérange pas non plus de chanter créole. Vous voyez ? Et du coup, j'ai eu envie, en fait, de ne pas me poser cette question-là, justement, que les gens nous demandent de faire un choix. J'ai pas envie de faire ce choix, en fait. J'ai toujours envie d'aller explorer. Et si demain il faut que je chante, que j'aime un morceau en espagnol, je chanterai une partie en espagnol. J'ai un couplet en portugais, et ça dérangera qui?
Vous savez qu'on retrouve beaucoup ça dans toute l'histoire de la musique.
Bien sûr.
Très récemment, nous avons fait une émission sur Debussy, et Debussy, par exemple, a été très impressionné lors de l'exposition universelle à Paris, par la musique océanienne, et dit que ça l'a beaucoup influencé pour ses sonorités. Donc c'est évident que le monde, il n'est pas fermé, que les musiques se mélangent. Et
bien
alors, si les musiciens ne savaient pas écouter, je ne suis pas sûr qu'ils sauraient écrire.
Certainement, c'est sûr.
Et on trouve ça aussi beaucoup dans les musiques du début du 20e siècle, qui ont été très influencées par les Russes. Les musiques russes avaient une sonorité tout à fait particulière que les musiciens français reprenaient. Donc, je pense que le musicien ne peut pas résister à l'apport. Ou alors, il est
Bien
sourd.
Sûr. C'est super intéressant ce que vous dites, parce que du coup, ça me renvoie justement à mes expériences personnelles, forcément. Et on parle de toute une époque, en fait, de rencontres et de correspondances, quoi. Moi, c'est vrai que c'est un peu mon expérience avec, avec la musique classique que j'adore. Mais par exemple, c'est pareil, c'est pas forcément une musique que je comprends, mais c'est une musique que je... Enfin, tous les jours, j'écoute... moi, c'est Chopin, par exemple. Moi, c'est Chopin et Ravi Shankar. Voilà. Donc, tous les matins, c'est ce que j'écoute parce que ça me met dans une appréciation de ma journée où c'est vraiment une musique qui m'apaise, en fait. Et je suis vraiment dans du pur ressenti. Alors, et c'est les rares musiques où, justement, je ne suis pas dans une analyse. Et c'est ça beaucoup que j'apprécie aussi avec, avec la musique classique.
Alors parlons aussi, tournons cette, non pas cette page, mais parce que toutes les pages doivent se mélanger, mais parlons aussi, sinon de votre militantisme et de l'expression que vous avez de la place de la femme dans le monde, sur votre île, en France et partout. Et on sent que là-dessus, vous êtes quelqu'un de motivé.
C'est devenu une motivation, je dirais, récente, dans le sens où j'ai grandi, en fait. Comme je vous disais, mon premier album, il est sorti en 2014. Donc, je commençais dans la musique et en fait... On renvoie des choses. C'est vraiment l'expérience de la tournée, de la scène, des enregistrements, de ce milieu qui est... Moi, je suis une artiste indépendante, tout est un peu... Voilà, on est à flux tendu un peu tout le temps. Et il faut se réinventer à chaque fois. Et en fait, c'est forcément une question qu'on se pose au bout d'un moment, puisque c'est ce qu'on nous renvoie, en fait. Et c'est devenu une motivation, alors comme je le disais sur scène, plus que du militantisme ou un engagement à proprement dit, je parle de bon sens en fait. Je me dis qu'il serait grand temps d'arrêter de remplir ces cases-là, de plus être un quota, parce que sinon moi je fais partie de plein de petites cases, comme je disais tout à l'heure, femme racisée, fille de... Il y en a tout plein, on a tous nos cases. Et
ce qui serait bien, c'est de plus y penser.
Ce serait génial, mais malheureusement on n'y est pas encore, et même j'ai même parfois l'impression qu'on s'en éloigne encore, alors qu'on avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on nous dit que, et sur plein d'autres questions, sur les questions environnementales, c'est pareil. Est-ce qu'il s'agit vraiment de militantisme ? Pour moi, c'est du bon sens, en fait. C'est vraiment une question de bon sens. Mais si, effectivement, ça peut être considéré comme du militantisme, puisque les clés ne sont pas dans nos mains à nous, elles sont dans les mains de notre gouvernement. Alors s'il faut le secouer un peu pour qu'il bouge, effectivement, ça devient du militantisme.
Oui, mais je dirais que, effectivement, je vous rejoins sur la conviction plus forte que le militantisme, et vous savez l'exprimer sur scène. Et c'est encore un moyen artistique qui est peut-être encore plus efficace.
C'est-à-dire que là, il faudrait quand même monter sur scène, m'enlever le micro, ça va devenir très compliqué. Donc, c'est ça, le pouvoir que je prends, en fait, effectivement, c'est d'en parler, parce qu'il s'agit de désamorcer, et oui, il y a des propos violents, mais parce que, en fait, c'est pareil. Dans mon premier album, j'avais un morceau qui parlait des violences conjugales. Et je me suis rendu compte que, par exemple, beaucoup d'enfants le chantaient. Parce que la mélodie est très joyeuse, mais le texte est très fort. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un autre pouvoir à ça, une autre puissance, et à faire passer ces messages-là, sans être moralisatrice. Toujours, ça c'est mon... c'est mon credo. J'essaye de m'y atteler. Je veux pas être une moralisatrice parce que je me pose tout autant de questions, en fait. Donc c'est pas mon intérêt, c'est pas ce que je recherche. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin aujourd'hui de dire les choses un peu plus frontalement, un peu plus abruptement, parce qu'en fait, on en est encore à là. Voilà. En 2012, je montais sur scène, je chantais les violences conjugales dans un morceau qui s'appelle « Sans yeux ». Aujourd'hui, on parle de la même chose des années après. Et enfin, ça devient un peu aberrant, en fait.
Peut-être que le fait qu'on m'en parle plus fait que ça... Des choses cachées émergent, qu'il y en a peut-être pas plus, mais vous le ressentez, parce qu'effectivement, on l'entend tous les jours. Mais peut-être parle plus facilement qu'on en parlait auparavant.
Oui, mais toujours est-il que ça ne change pas le problème.
Mais ça veut dire que ça existe encore.
Oui, exactement.
Et alors, quels sont vos grands projets à venir ?
Eh bien, écoutez, là, je suis en pleine sortie on appelle ça un EP aujourd'hui. Donc, c'est 5 titres qui vont sortir le 21 octobre. On vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle Cartel, qui est sur toutes les plateformes, qui dénonce en fait les injustices sociales, justement là, qui est un peu plus frontale dans cette approche-là. Non pas que féminine, mais en fait, je crois que c'est un morceau que j'avais besoin d'écrire où je crois que tout le monde en prend pour son grade, où je dis que en fait, j'ai passé l'âge d'être gentille. Et que c'est un peu fatigant de voir une injustice sociale, que ce soit toujours les mêmes personnes qui galèrent. Ce morceau est sorti il n'y a pas très longtemps. On va sortir l'EP le 21 octobre. Et donc on continue la tournée, là, qui se termine le 21 octobre. Donc le jour de la sortie de... Enfin, la tournée en France, pardon. Et ensuite, moi, je vais rentrer un petit peu à la maison, donc à La Réunion, dans mes quartiers, jouer un peu pour les gens à la maison. J'ai une date au Cabardoc, donc au port. J'ai une date à Mayotte aussi, donc dans la zone océan Indien. J'espère normalement aller à Maurice, défendre ce projet-là aussi. Donc jusqu'à la fin de l'année, j'ai tous ces projets-là. Une rencontre qu'on continue avec un groupe occitan qui s'appelle Baru. Une superbe rencontre entre le créole et l'occitan. Des génériques de courts-métrages, de belles choses, et puis retourner en studio, retourner sur scène et se poser quand je peux, on verra.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien et merci encore pour votre spectacle.
Merci beaucoup.
Vous avez dû sortir épuisé, mais apparemment vous avez retrouvé toutes
vos
forces.
Ça va.
Merci encore.
Merci.
chaque bataille perdue là. Elles arrivent de partout et font trembler les loups entendus. Hurlements sourds et ces balots qui jaillissent et font trembler les loups.
Merci encore à ces deux artistes et au Festival d'Ambronay de nous avoir accueillis. Nous avons rompu avec nos habitudes de présentation, puisque c'est donc du vécu à la fois quant au Festival d'Ambronay et quant aux artistes interviewés, mais nous les avons écoutés aussi. Notre prochaine émission, nous reviendrons à nos méthodes, à savoir nous présenterons un très grand artiste, un très grand monument du jazz qui est souvent présenté comme son créateur, en tout cas il y a participé activement, Louis Armstrong. Mais je pense que nous renouvellerons cette expérience de contact avec des artistes et de présence sur des lieux de concert. À bientôt sur Radio B et merci pour votre écoute de Musique au Pluriel.